Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Gassam Zaki.
Désormais, toutes les affiches sur les voies publiques, les pancartes et les photos attestant une propagande des pré-campagnes électorales de la part des acteurs politiques et autres leaders doivent être enlevées. C'est la décision prise par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui demande à ses services de procéder à cette opération. Vous entendrez tout à l'heure à ce sujet son directeur de cabinet, le professeur Norbert Yambayamba, qui est l'invité du journal. Comment assurer la prise en charge des déplacés internes de la guerre du M23 estimée à près de 2 300 000 sur l'ensemble de la province de Nord Kivu? Cette question était au centre d'une rencontre vendredi dernier à Goma au gouvernorat des provinces à l'intention des acteurs humanitaires. Restez avec nous pour en savoir plus. Au Kasaï oriental, certains agents et cadres de la fonction publique déplorent la récupération de la totalité des 2 premiers mois des salaires exigés par leur chef hiérarchique après la mécanisation. C'est en tout cas en guise de compensation d'efforts fournis auprès de la fonction publique pour obtenir cette mécanisation. Un acte qualifié d'escroquerie par l'autorité provinciale. Mesdames et messieurs, bonjour. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ordonne à l'Agence nationale des renseignements, à la Direction générale des migrations et à la police nationale congolaise de procéder à enlever toutes les affiches sur les voies publiques, les pancartes et les photos attestant une propagande de pré-campagne de la part des acteurs politiques et autres leaders, et cela sur toute l'étendue du pays. Cette mesure est contenue dans un message datant du 10 novembre dernier. Le directeur des cabinets du vice-premier ministre de l'Intérieur appelle tous les acteurs politiques à attendre la campagne électorale qui commence le dimanche 19 novembre 2023 pour se lancer dans la propagande telle que prévue par la loi. On écoute le professeur Norbert Yambayamba au micro d'Alain Rung.
Et donc, les acteurs politiques ont profité, je ne sais pas de quoi, pour commencer la pré-campagne qui, du reste, n'est pas statutaire ni réglementaire. Et voilà, l'autorité, à cause de cette confusion, qui risque de remettre en question la loi telle qu'elle est prescrite, elle a donné des instructions aux services que vous avez cités, et aux commissaires provinciaux de la police, etc., de veiller à ce que les différentes affiches ou tout autre acte qui fait l'objet, n'est-ce pas, d'une pré-campagne soit interdite jusqu'on attend le 19 comme prévu par la CENI. Voilà, donc je confirme l'authenticité de ces documents.
Quelle est l'opportunité maintenant, alors que pendant tout ce temps vous avez laissé faire?
Non, on n'a pas laissé faire. Mieux vaut tard que jamais. Donc, bien entendu, lorsqu'il y a clameur publique, lorsque on observe effectivement qu'il y a une sorte d'inscravagance dans ce qui s'est fait, qui frise une certaine dérive, il est très clair, n'est-ce pas, de rappeler à l'ordre les uns et les autres qui sont censés poser des actes contrôlés par rapport à ça.
Cette question de la campagne électorale précoce à travers des banderoles et des affiches a été plusieurs fois dénoncée par certaines structures de la société civile à travers le pays. Le vendredi dernier, au cours de la cérémonie de tirage au sort organisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC pour les interviews avec les candidats présidents de la République, l'opposant Presse Pengue, porte-parole de la Mouka, avait aussi évoqué cette question. On l'écoute dans cet extrait proposé par Alain Rung-Mouchins.
À ce qui concerne les panneaux publicitaires, monsieur le Président, je vous ai déjà suivi. Vous avez dit, vous n'avez pas la contrainte, vous n'avez pas la police. Si vous quittez les sauts de mouton de Mandela jusqu'à chez moi, lui mettez à échangeur, si vous avez 40 panneaux, 39 panneaux, c'est le visage de Félix Tshisekedi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Ce sont des pratiques qu'on a condamnées sous Kabila, avec Félix Tshisekedi ensemble, on ne peut pas comprendre cela. Vous devez veiller à ça. Et j'ai été annonceur également, j'ai travaillé pendant 15 ans avec Pierre-Jacques Chaloupa dans une des plus grandes sociétés publicitaires. À l'époque, en 2011, on nous avait arraché tous nos panneaux avec Chaloupa parce que on estimait qu'on avait mis les visages de Tshisekedi dans le monde. Mais aujourd'hui, c'est la même chose. Il y a des annonceurs qui nous disent qu'on leur a interdit de laisser des panneaux aux opposants. Et donc, voilà, veiller à ce travail-là.
Pour sa part, la CENI organise à partir de ce lundi jusqu'au mercredi des cadres de concertation pour des élections transparentes, inclusives et apaisées avec les candidats présidents, les partis et les groupements politiques et la société civile. Pour en savoir un peu plus, suivez le deuxième vice-président de la CENI, Dr Didi Manara-Linga, dans ses propos recueillis par Alain Rung.
À quelques 40 jours des élections présidentielles, législatives, provinciales et municipales, la Commission électorale nationale indépendante, fidèle à son engagement d'ouverture et de contact permanent avec les parties prenantes, organise du 13 au 15 novembre 2023 des cadres de concertation avec les candidats président de la République, les partis et regroupements politiques et candidats indépendants, ainsi qu'avec la société civile dans sa diversité, pour des élections inclusives, crédibles, transparentes et apaisées. Le cadre de concertation CENI candidat président de la République se tiendra le lundi 13 novembre 2023 au fleuve Congo Hôtel, tandis que le cadre de concertation avec les partis et regroupements politiques, candidats indépendants, ainsi que celui avec la société civile, se tiendront respectivement le mardi 14 et le mercredi 15 novembre dans la salle de spectacle du Palais du Peuple. Il est à noter que chaque candidat président de la République qui le désire devra se faire accompagner d'un seul collaborateur.
Par ailleurs, la Commission électorale nationale indépendante a publié la semaine dernière à Kinshasa la cartographie des bureaux de vote pour les élections du 20 décembre 2023. Dans son communiqué numéro 057, la CENI signale que cette cartographie est disponible dans les antennes et sur son site web. Radio Capi commence ce lundi une nouvelle série de reportages à ce sujet. Que peut-on retenir de la cartographie des bureaux de vote? Élément de réponse dans ce reportage signé Esther Ndalafina.
La cartographie des bureaux de vote permet aux électeurs, aux candidats, aux partis politiques, aux témoins ainsi qu'aux observateurs de visualiser la localisation des centres et des bureaux de vote par province, par ville, par territoire, par secteur, par chefferie et par commune. C'est sur base de la cartographie que les électeurs vont facilement identifier le bureau de vote afin d'exécuter leur droit de vote le 20 décembre prochain. À travers la publication de la cartographie des bureaux de vote, les parties prenantes peuvent se rendre compte si l'opération d'actualisation de la cartographie électorale a été exécutée conformément aux actes exécutoires ou dispositions relatives au statut actuel de certaines entités administratives retenues comme circonscriptions électorales. La publication de la cartographie des bureaux de vote par la CENI vise à garantir la transparence du processus électoral. Elle permet aux parties prenantes d'empêcher la fraude. D'après la CENI, la cartographie publiée est disponible dans les antennes et sur le site web de la CENI en formant répertoire des centres de vote et les bureaux de vote avec les adresses physiques. Elle est aussi présentée en carte des secteurs, chefferies et communes téléchargeables et imprimables.
Je l'ai dit dans les titres, au Nord Kivu, comment assurer la prise en charge des déplacés internes de la guerre du M23, estimée à près de 2 300 000 sur l'ensemble de la province, et particulièrement les 20 000 déplacés venus récemment du territoire des Masisi, précisément à Kichanga? La question était au centre d'une rencontre vendredi dernier à Goma, au gouvernorat des provinces, présidée par la conseillère en charge des affaires sociales à l'intention des acteurs humanitaires. L'essentiel de cette rencontre avec Bernardine Diambo.
Il s'agit donc d'élaborer un plan de résilience pour les 3 prochains mois. Selon les chefs de division provinciale intérimaire de la santé au Nord Kivu, tout est prévu dans ce plan pour tous les déplacés internes. Il ne s'agit pas seulement dans l'axe Sake-Kilo-Lire, mais aussi ceux de l'axe Rutshuru et de la partie nord de la province. Docteur Hans Batei.
Nous avons dans ce plan prévu au niveau de l'axe Sake, il y a d'une part la prise en charge médicale, la gratuité, mais aussi des équipes mobiles d'intervention par rapport à la prise en charge de tout ce qu'on aura comme morbidité et mortalité aussi. Mais nous avons aussi pensé, c'est comme ça qu'on a mobilisé avec le PAM et les autres partenaires par rapport à tout ce qui est approvisionnement en food et non-food.
C'est en l'eau que ce plan a aussi pensé à ceux-là qui veulent retourner dans leur milieu d'origine, notamment si la situation s'améliore tant soit peu. Les PNUD et d'autres partenaires de développement ont été mis à contribution par rapport aux retournés qui pourront rentrer dans leur milieu d'origine. Goma, Bernardine Diambou, Radio Capi.
Éducation à présent. Créée en 2019, l'école primaire Saint-Jérôme de Butembo au Nord Kivu était destinée à l'éducation des enfants déplacés venus des différentes localités du territoire de Beni et même de la province de l'Ituri fuyant les massacres des ADEF. Cette école avait atteint un effectif de plus de 200 élèves, tous des déplacés sans compter les enseignants et le personnel administratif. Au début de cette année scolaire, suite à des difficultés de fonctionnement et de la baisse de la qualité de l'enseignement, les autorités scolaires décident de fermer l'école. Quel est le sort de ces élèves et de leurs enseignants? Baudouin Mouindonguka, chef de la sous-division de l'EPST Butembo 2, explique au téléphone de Sadiki Aboubakar.
Les inspecteurs, dans leur itinérance, Ils ont constaté que cette école a de sérieux problèmes de manuels, problèmes de non-prise en charge des enseignants, aux difficultés de fonctionnement. Et alors, suite à ces différents rapports des inspecteurs, on a jugé bon que vraiment cette école puisse fermer pour ne pas gâcher l'avenir des enfants. C'est ainsi que les enfants, nous les avons orientés vers 3-4 différentes écoles primaires publiques. Mais dans le suivi de ces enfants, ils s'adaptent bien. Les enfants n'ont pas assez de problèmes. Déjà même à la fin de la première période, les enfants se sont bien débrouillés. Les enfants sont presque à grande partie enfermés, vulnérables. Il ne fallait pas, à part ce malheur qui leur est arrivé par la nature, qu'on puisse encore ajouter d'autres problèmes, des sous-qualifications, de l'enseignement de mauvaise qualité. Les enseignants ont été mis à la disposition de la coordination, qui nous ont promis que dès qu'il y aura des places vacantes dans les unes des écoles catholiques, on pourra faire appel à ces enseignants.
Cette autre nouvelle sur Radio Okapi. Dans la province de la Tchopo, les déplacés des événements récents liés au conflit de quelques individus issus des communautés Mbole, Lingola, Kumu et Kansor vivent dans des conditions difficiles. Ils sont démunis de tout pour avoir été forcés à abandonner leur domicile. C'est pourquoi l'archevêque de Kisangani, Marcel Utembitapa, vient de lancer un appel à la solidarité aussi bien locale, nationale qu'internationale pour leur assistance. La collecte des fonds, vivre et non vivre, est prévue à partir des dimanche 12 novembre jusqu'au retour des déplacés dans leur village. Le prélat l'a annoncé vendredi au cours d'un point de presse. Le point avec Jacques Mukonkoli.
Les déplacés installés à la paroisse Saint-Gabriel viennent de 17 villages. Ils arrivent au fur et à mesure qu'ils se sentent en insécurité dans leur milieu. Jusqu'à vendredi matin, leur nombre était d'environ 1700 personnes, dont plus ou moins 900 enfants mineurs. Le père Gabriel Mbeya, curé de cette paroisse, parle des besoins urgents qui se font sentir dans ce site.
Nous avons besoin des tentes pour pouvoir les loger dignement comme humains. Et aussi, nous avons besoin de multiplier les installations sanitaires pour prévenir d'autres maladies. Nous avons besoin de vivre. Nous avons aussi besoin d'argent en nature, puisqu'il y a d'autres choses qu'on doit acheter.
Au regard de l'ampleur des difficultés que connaissent ces déplacés, l'archevêque de Kisangani en appelle à plus de solidarité pour faire face à ce grand défi. Monseigneur Marcel Utembitapa.
J'ordonne que soient organisées dans toutes les paroisses de l'archidiocèse de Kisangani des collectes de fonds, de vivres et non vivres pour matérialiser notre charité. Et ce, à partir de ce dimanche 12 novembre 2023, ne devrait laisser personne indifférent.
Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Merci de nous recevoir à Mbujimayi, dans la province du Kassai-Oriental, où certains agents et cadres de la fonction publique déplorent la récupération de la totalité de 2 premiers mois de salaire exigés par leurs chefs hiérarchiques après la mécanisation. Cet acte est défini comme la compensation d'efforts fournis auprès de la fonction publique pour faire mécaniser et payer leurs collaborateurs. La gouverneure des provinces intérimaires condamne cet acte et le qualifie d'escroquerie. C'est ce que nous dit Esther Ndalafina.
Cette pratique s'est bien installée dans les différentes divisions provinciales de la fonction publique au Kassai-Oriental. Plusieurs agents dénoncent la récupération de la totalité des 2 premiers mois de salaire, une conditionnalité pour être déclaré et aligné sur la liste des agents au sein d'une division provinciale de l'administration publique. Quelques agents affirment que ceux qui boudent cette pratique voient leur nom débarquer de la liste au détriment des proches, des familles ou encore des amis et connaissances non concernés par cette opération. Lors du récent contrôle biométrique, quelques agents et cadres de la fonction publique reconnaissent avoir été empêchés d'être recensés suite à cette pratique. Contactés, quelques chefs de division provinciale rejettent ces allégations. La gouverneure de province intérimaire qualifie cette pratique d'escroquerie. Elle promet de suivre de près la paye du mois d'octobre dernier. Julie Kalenga promet de révoquer et traduire en justice tout responsable de division qui sera surpris dans ses antivaleurs. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Condamné à perpétuité en Côte d'Ivoire à l'issue d'un procès qu'il juge politiquement motivé, l'ancien premier ministre ivoirien Guillaume Soro annonce mettre fin à son exil en cours depuis décembre 2019. Reste encore à savoir s'il risque d'être arrêté à son retour en Côte d'Ivoire. Le ministre allemand de la Défense a annoncé hier soir un doublement à 8 milliards d'euros de l'aide militaire prévue initialement par son pays pour l'Ukraine en 2024. Cela constitue un signal fort à l'Ukraine montrant que nous ne la laissons pas tomber au moment notamment où la tension internationale est focalisée sur Israël et la bande de Gaza, déclare Boris Pistorius sur la chaîne de télévision publique ARD.
L'invité.
Comme annoncé, notre invité est le professeur Norbert Yambayamba, directeur du cabinet du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Il s'exprime sur cette mesure qui consiste à enlever toutes les affiches sur les voies publiques, les pancartes et les photos attestant une propagande de pré-campagne électorale de la part des acteurs politiques et autres leaders. Le professeur Norbert Yambayamba s'entretient avec Alain Runga.
Professeur Norbert Yambayamba, bonjour.
Bonjour.
Il y a un document qu'il a signé où il demande aux services spécialisés, notamment à l'ANR, à la DGM et à la police nationale congolaise, d'enlever sur les voies publiques toutes les pancartes, les photos et les affiches attestant une propagande de pré-campagne. Est-ce que vous confirmez d'abord l'authenticité de ce document? Et puis si oui, comment va se passer cette opération?
Merci pour la question. Il faut reconnaître que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a la responsabilité d'assurer la sécurité et de faire obéir, exécuter les différents textes qui ont été mis en route pour réglementer les processus électoraux. Ceci étant, on a observé un engouement, une sorte de non-respect des règles de jeu par rapport à la campagne qui est fixée le 19 de ce mois. Et donc, les acteurs politiques ont profité, je ne sais pas de quoi, pour commencer la pré-campagne qui du reste n'est pas statutaire ni réglementaire. Et voilà, l'autorité, à cause de cette confusion qui risque de remettre en question la loi telle qu'elle est prescrite, elle a donné des instructions aux services que vous avez cités, aux commissaires provinciaux de la police, etc., de veiller à ce que les différentes affiches ou tout autre acte qui fait l'objet, n'est-ce pas, d'une pré-campagne soit interdite jusqu'on attend le 19 comme prévu par la CNI. Voilà, donc je confirme l'authenticité de ces documents.
Mais quelle est l'opportunité de cette mesure maintenant, à une semaine du lancement de la campagne électorale, le 19 novembre prochain, alors qu'on sait que ça fait beaucoup de temps qu'on voit plusieurs affiches des ministres, des députés et même du président de la République, hein, notamment ici à Kinshasa. Quelle est l'opportunité maintenant, alors que pendant tout ce temps, vous avez laissé faire?
Non, on n'a pas laissé faire. Mieux vaut tard que jamais. Donc, bien entendu, lorsqu'il y a clameur publique, lorsque on observe effectivement qu'il y a une sorte d'extravagance dans ce qui s'est fait, qui frise une certaine dérive, il est très clair, n'est-ce pas, de rappeler à l'ordre les uns et les autres qui sont censés poser des actes contrôlés par rapport à ça. Donc, moi, je pense qu'on peut pas reprocher au vice-premier ministre le fait d'avoir pris des dispositions, peut-être en retard, ça c'est évident, mais au départ, on n'a pas bien perçu que les gens étaient vraiment en campagne. Mais là, c'est très clair que bon, les gens profitent pour poser parfois des actes contrôlés. Il faut arrêter la machine. Une semaine, c'est beaucoup. Et quand on arrête, le moment venu, justement, chacun pourra faire les choses dans le respect de la loi appropriée. Voilà.
Et donc, comme vous l'avez dit, les commissaires provinciaux également sont concernés par cette note du VPM de l'Intérieur. Comment vous allez procéder pour enlever toutes ces banderoles et ces affiches à travers le pays, évidemment?
D'abord, le message officiel qui a été envoyé par le vice-premier ministre donne des instructions claires par rapport à ça. Qu'il faut arrêter cette technique qui a presque ces derniers jours pour faire une pré-campagne qui file de la vraie campagne. Ça serait la chose. Deuxième chose. L'instruction a été donnée directement aux commissaires provinciaux qui ont servi d'assurer l'ordre public. Et donc, la chose est claire. Il y a des affiches, il y a des pancartes, etc. Si cela va dans le sens d'une campagne, pourquoi pas? Il faut remettre en question. Et ils devront veiller sur l'ensemble de leurs entités respectives, là où se trouvent des affiches, etc., et savoir les enlever. Et le moment venu, le 19 de ce mois, on donne la possibilité à tout un chacun d'opérer sans problème. Mais cette confusion qui risque de donner chance à certaines personnes par rapport à d'autres, c'est ce qu'il faut remettre en question. Et c'est ça la dynamique et la pertinence de la décision.
Merci beaucoup, professeur Norbert Yambayamba.
Voilà, fidèles auditrices et auditeurs de la fréquence de la paix, c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal coordonné par Jacques-Yves Molima. et supervisé par Alain Rungmuchins. Merci à Alain Goy qui a assuré la mise en onde et à vous tous qui nous avez suivis. Vous pouvez réécouter ce journal sur notre site internet www.radiocapi.net. Bonne suite de l'antenne matinale avec Kaki Akewa.